une création.
Blast.
Adolescence, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. Les adultes disent souvent qu'avec le temps, tout passe. C'est faux. L'adolescence ne passe pas. Elle nous imprègne, à vie. C'est quoi être adolescent en 2025 ?
Je m'appelle Giovanni, j'ai 17 ans, et c'est tout, je pense. Je sais pas.
Épisode 6, Giovanni, dans le mauvais corps. J'ai rencontré Giovanni lors d'un atelier d'écriture dans son lycée. J'ai lu une voix particulière, une musique dans ses mots, rythme martelé, une urgence vitale de dire, d'écrire, dans laquelle je me suis retrouvée. Giovanni est un garçon trans. À aucun moment, je ne me suis posé la question de son genre. J'ai vu Giovanni. Certains élèves s'adressaient à lui au féminin. J'ai perçu la douleur sur son visage. Il les reprenait calmement. Il, pas elle. À l'intérieur, il était tout sauf calme. Il sonne chez moi en avance. Je ne suis pas prête, en sueur de mon footing. Je m'agite, prends une douche. Pendant que l'eau coule sur ma peau, je pense à cet adolescent assis sur une chaise dans mon salon. J'entends presque son tic-tac. Giovanni est une bombe à retardement. Tic-tac, tic-tac, boum. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton adolescence ?
Alors, dire de mon adolescence, je sais pas trop, parce que déjà, où ça commence, où ça se termine, et puis je saurais pas dire si je l'avais bien ou pas, parce que je suis pas émotive, donc je ressens assez peu les choses qui peuvent m'entourer ou qui même moi-même me concernent. Je suis très détachée de mes émotions, donc l'adolescence, c'est pas quelque chose que je vais dire où je vais vivre super mal ou super bien. En soi, mes interactions sont plutôt bonne si on reste sur un cercle un peu d'amitié, mais si on parle dans le cadre familial, mon adolescence, c'est pas forcément la meilleure, enfin celle dont j'aurais rêvé. Moi, j'ai encore du mal à comprendre beaucoup de choses qui concernent ma famille et dans leur regard qu'ils ont par rapport à moi ou autre.
Tu parles du regard par rapport à toi, c'est par rapport à quoi, ta transition ou...
Je dirais, ouais, il y a beaucoup par rapport à la transition, aussi par rapport à mon vécu, parce que du coup, j'ai une belle famille, donc je suis très séparée de mon côté paternel. Après, ils ont des regards forcément, je sais pas comment dire, c'est... En fait, je pense que c'est aussi de ma faute, c'est parce que moi, j'ai des attentes, et moi, je peux pas satisfaire leurs attentes, et ça va dans les deux sens. Parce que pour moi, ça a toujours été comme ça. Mon inconscient a toujours été un garçon, déjà. Et je le ressentais, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était, vu que je suis très détachée de mes émotions depuis toujours. Et à un moment, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et j'ai commencé à analyser. Et c'est à mes 8 ans que je me suis dit, en fait, non, c'est faux. Les gens disent que je suis une fille, mais je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Et ça a toujours été comme ça. Moi, mon corps, il ne me correspond pas et c'est comme ça que je l'ai remarqué. Et en fait, c'est tous les matins se lever et se dire, il est où mon corps ? Pourquoi ça ne correspond pas ? Pourquoi il y a un truc qui ne va pas ? Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Donc au début, j'en parlais pas du tout et j'ai commencé à en parler à ma famille quand j'étais en 4e. Et j'en ai parlé à mes amis quand j'étais CM2, 6e. Mais au début, personne ne m'écoutait, personne ne comprenait.
Tu disais quoi ?
Je disais, c'est bizarre, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas l'impression vous êtes différent, votre corps, il n'est pas rattaché à votre esprit et tout. Et les gens, ils me regardaient bizarre, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu nous racontes encore ? C'est quoi ces conneries et tout ? Et moi, je disais, super, je suis seule.
T'as l'air de beaucoup réfléchir et de... Non ?
Oui, on me dit souvent ça, que je réfléchis beaucoup. Et des fois, même, on me dit, tu réfléchis trop. Parce que j'ai tendance à avoir tout analyser et... C'est aussi une de mes sources de frustration. Et on me dit, t'inquiète, c'est l'adolescence. Mais la frustration, elle est là depuis toujours, en vrai. C'est toujours la frustration. Elle a pris une grande place dans ma vie, mais depuis que je suis née, quoi. C'est comme ça. Il y a les gens, c'est le stress. Bah, moi, c'est la frustration.
T'es frustrée par quoi?
Bah, en fait, pour moi, c'est la frustration, c'est ne pas avoir de réponse ou c'est une réaction parce que j'ai tendance, du coup, à tout prévoir, à tout planifier, etc. Donc, si j'attends une réaction de quelqu'un et qu'il ne l'a pas, ça va me frustrer. Ou si quelqu'un a une émotion qui surgit d'un coup comme ça, ça va me frustrer parce que je suis là, mais pourquoi il s'énerve ou pourquoi il est trop heureux ou pourquoi il y a ça? Enfin, je sais, je me pose trop de questions, du coup. Donc, c'est un peu compliqué.
Un peu compliqué, c'est un euphémisme. L'adolescence est un âge où on est censé tout ressentir, tout en plus fort. Giovanni, c'est le contraire. Enfermé dans le mauvais corps, enfermé dans sa tête, déconnecté de ses émotions. Giovanni ne sait pas ce qu'il ressent. Le décalage entre le vrai Giovanni et l'autre, entre son corps et son esprit, le tiraillement, la frustration totale. Ce n'est pas un peu compliqué, ça doit être insoutenable.
Quand tu dis que t'es dans le mauvais corps, enfin, comment tu le revois? Parce que tu le ressens comment? C'est que la poitrine, t'aimerais pas en avoir? Enfin, comment tu...
Bah, moi, j'aimerais juste avoir le corps d'un garçon normal. Enfin, retrouver le corps auquel je suis censée être attachée. Je veux dire, je suis déjà un garçon, c'est juste le corps, il va pas avec. Et le matin, en général, je m'avais... Ça fait un peu bizarre de se réveiller le matin comme ça. En fait, je me dis, c'est bizarre, il manque un truc entre mes jambes et mon torse, il est super lourd. Je suis là, c'est sympa, quoi. C'est pas mon corps, mais ok. Du coup, j'accepte, hein, ça va. Je suis là, c'est pas grave, mais je reste un garçon. Ça change pas grand-chose. Après, c'est juste physiquement, j'aime pas du tout. Et il y a une période, c'était assez compliqué parce que vraiment, je me scarifiais la poitrine pour essayer de l'enlever. Enfin, je supportais pas du tout et bon... Maintenant, j'ai beaucoup de cicatrices et je regrette un petit peu, enfin, si on peut dire ça comme ça. En soi, je le regrette pas parce que ça fait partie de mon parcours et enfin, faut que je l'accepte un jour. C'est comme le corps, faut l'accepter et il faut se dire c'est pas grave. Et maintenant, la médecine nous permet de changer les choses. Donc, en soi, faut pas paniquer, faut juste prendre son temps.
Quand est-ce que tu as fait ça, te scarifier la poitrine?
Ça, c'est quand j'étais en 6e. Ça avait commencé et tout. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas grave, on arrête. Et j'ai repris quand j'étais en 4e. Et là, c'était vraiment juste horrible. J'en pouvais plus parce que je me disais, mais quand que ça va s'arrêter? J'en peux plus, je veux plus de ça. Je voulais juste mourir à ce moment-là parce que j'étais là. Et je prenais conscience que j'aurais jamais un vrai corps d'homme, enfin, entre guillemets. Et j'ai définitivement arrêté, c'était l'année dernière, quand j'étais en seconde.
Alors, donc, ça a duré longtemps.
Ça a duré vraiment beaucoup de temps. Et tout ce temps-là, ça m'a permis d'accepter un peu plus, on va dire.
Ouais. Et quand tu le faisais, tu ressentais quoi?
Quand je le faisais, en fait, c'est au début, ça partait... C'était impulsif, donc c'était sur le coup de l'énervement, parce que j'en pouvais plus. En fait... Quand la lame se pose sur moi, je constate. Et c'est comme si j'étais détachée de mon propre corps à ce moment-là, justement. C'est comme si je m'observais le faire. Et après un moment, je commence à arrêter parce que je me dis que j'ai envie de faire autre chose et c'est tout. Comme une activité quotidienne. Sauf que, bon, là, l'activité quotidienne, c'est des scarifications. Et aux yeux de la société dite normale, c'est pas quelque chose qu'il faut faire.
Et la douleur ?
La douleur, je la ressens pas du tout. C'est peut-être que si j'avais plus senti la douleur, ça irait mieux, je sais pas. Enfin, mais quand je me scarifie, vraiment, je sens rien du tout. C'est jamais assez fort.
Tes parents, ils savent que...
Alors, ils savent pour mes bras, mais pas pour le reste. En fait, je leur parle assez peu de ma transition parce qu'avec eux, je sais pas pourquoi, mais enfin, ma mère, je lui fais pas assez confiance. Et mon beau-père, c'est que j'ai pas envie qu'il me fasse des remarques. Du coup, j'essaie de lui dire ce qui pourrait lui plaire, ce qui pourrait faire en sorte que ça crée pas une embrouille et c'est tout.
Comment ça, ta mère, t'as pas assez confiance, c'est quoi?
J'ai un peu du mal avec mes deux parents biologiques. C'est-à-dire que, vu qu'ils sont énormément disputés, je pense que c'est peut-être dû à ça. J'ai du mal à leur faire confiance ou peut-être que... À l'intérieur, je leur en veux encore d'avoir trop crié et d'avoir un peu, entre guillemets, cassé mon cerveau. Je n'en sais rien.
Tu penses que c'est eux qui ont cassé ton cerveau.
Je pense que c'est un peu à cause d'eux qu'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être pas venir en ce moment, parce que c'est ce que les psys me répètent depuis que je les vois, donc j'en sais rien en vrai.
Comment ils ont pris ta transition ?
Ta mère, mon père ?
Alors, mon père a super bien réagi. Il m'a dit « c'est cool, on fera des trucs d'hommes ensemble, tu vas voir, ça va être incroyable, on va aller voir des voitures et tout ». Du coup, j'étais super contente parce que j'adore les voitures, donc en parler avec lui, c'est juste incroyable. Tout de suite, il m'a appelé Giovanni. Lui, ça lui a posé aucun problème. Ma mère, elle, c'est quand elle l'a su, elle a un peu refusé. Elle m'a dit « mais fais attention et tout ». Puis elle reste très pessimiste par rapport à ça. Alors, elle l'accepte, mais pas avec tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines personnes, elle va pas dire que je suis trans. Il y a d'autres personnes, elle va dire « oui, il est trans » ou elle va juste me qualifier de trans aux yeux des autres. En fait, pour elle, elle voit que ça chez moi. Donc c'est assez compliqué et à chaque fois elle me dit « mais tu te rends pas compte, les opérations, etc. Si t'es pas bien dans ta tête, tu pourras pas, c'est un coup, tu vas regretter, machin. » Et c'est assez compliqué. Et mon beau-père, lui, il essaye de comprendre parce que c'est pas de sa génération. Du coup, il est là, il voit un peu flou par rapport à ça. Et il essaye de faire des efforts, mais des fois, ça, j'ai vu qu'il est très nerveux, mais il s'énerve facilement et il peut très vite angoisser par rapport à ça, lui aussi. Enfin, je sais pas, il se met vite en colère, donc c'est un peu compliqué. Et après, au niveau de mes frères, j'en ai un qui refuse totalement. Enfin, d'ailleurs, il est transphobe, c'est un peu dommage. Donc, de toute façon, ce frère-là, bon, honnêtement, je l'ai pas vraiment, j'ai pas d'attachement à lui. Et il commence juste à me taper sur les nerfs. Et par rapport aux deux autres, il y en a un qui est neutre et l'autre, il est un peu perdu. Lui aussi, du coup, il ne sait pas. Il m'appelle Giovanni et tout. Mais enfin, il y a juste devant ma mère ou devant ma famille qui va me genrer au féminin, etc. Mais en soi, il accepte aussi, je pense. Enfin, un comportement un peu bipolaire par rapport à ça, on va dire.
Ta mère, elle t'appelle Giovanni ?
Ça dépend. Ça dépend avec qui, ça dépend où, ça dépend le contexte, ça dépend de son humeur, ça dépend de plein de choses.
Au lycée, enfin, comment ça se passe de ce côté-là ?
Alors, au lycée, peu de gens savent que je suis trans. La plupart pensent que je suis vraiment né garçon. Et il y a une autre partie qui met très peu, et ça c'est surtout dans ma classe cette année. Certaines personnes, vu que je suis jamais en cours, pensent que je suis une fille. Et quand ils me voient, ils ont du mal, ils sont là, mais t'es une fille ou un garçon ? Et après, je leur explique, ils comprennent. Mais vu qu'on se voit très très peu, bah, ils confondent souvent les deux prénoms et je suis obligée de leur rappeler, mais ça reste toujours dans une bonne entente. Et vu que je leur parle une fois tous les trois mois, ça va.
Tu dis que t'es pas souvent à l'école, pourquoi ?
Alors en fait, je suis au lycée tout le temps, mais je ne vais pas en cours. Parce que du coup, j'ai été internée un mois en psychiatrie. Et au final, au lieu de m'aider, ça m'a encore plus tiré vers le bas. J'ai eu un traumatisme violent là-bas, à cause de la salle d'isolement, parce que j'ai été jugée trop dangereuse pour moi-même et pour les autres. Du coup, j'ai du mal à retourner en cours. Donc des fois, je peux faire des crises où je vais juste refuser tout le monde. Je vais juste devenir violente dans mes propos et ça peut peut-être se répercuter sur des actes, je sais pas encore, parce que pour l'instant, je reste souvent à l'accueil du lycée, donc je n'agis pas vraiment, je reste seule.
Pourquoi t'as été internée ?
J'ai été internée à cause d'une tentative de suicide. J'avais essayé de me jeter par la fenêtre pour mettre fin à mes jours. L'optique, c'était j'ai une chance sur deux de mourir, et je me dis, bah, peu importe, les deux, ça me va. Donc, juste sauter, c'est tout. Et après, c'est ma mère qui m'a rattrapée et elle m'a dit, on t'emmène à l'hôpital demain matin.
T'as pas sauté ou...
Non, elle m'a rattrapée juste avant.
C'était égal de vivre ou de mourir ?
Ça m'était totalement égal. Et je me disais, quitte à ressentir quelque chose, autant que ce soit maintenant. Et apparemment, la mort, c'est quelque chose, quand on est juste à côté, on ressent quelque chose de fort. Honnêtement, j'ai rien ressenti. Même le fait d'être au bord de cette fenêtre, qu'à tout moment je pouvais mourir, ça m'a rien fait du tout.
Je regarde ma fenêtre. J'imagine Giovanni de dos, debout sur le rebord. J'ai le vertige. Le suicide pour ressentir quelque chose. Mais même là, rien. Giovanni ne ressent pas la peur. C'est le néant. Regarde dans le vide. Envie de pleurer, mais rien ne sort. En prison, au lycée, dans sa famille, dans son corps. Vouloir s'arracher la peau, les formes, tout. Enfoncer la lame, profond, par habitude. Juste pour faire quelque chose. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Sinon, il saute. Rien n'est pire pour moi que de ne rien sentir. Cela m'arrive parfois et c'est terrible. L'anesthésie finit toujours par se dissiper. D'un coup, je ressens toute la douleur endormie. Je pleure et c'est bon de pleurer. Je hurle, je suis épuisée, je m'écroule. Quelquefois, je me dis que je vais pas me réveiller. Jusque-là, je me suis toujours réveillée. J'explose, je reviens, j'écris, je lâche tout. Giovanni ne lâche rien. Il est enfermé quelque part. Je scrute son visage. Je perçois une blessure quand il aborde son hospitalisation.
C'est un peu particulier parce que quand je suis arrivée, j'avais l'impression en fait d'être déjà mort. Donc j'étais là, qu'est-ce qui se passe ? J'étais totalement vide en fait. Je pense que ça a peut-être dû être un choc, mais je ne l'ai pas ressenti. Enfin, en tout cas, pas sur l'instant. C'est-à-dire que c'est surtout le lendemain. Et, du coup, j'étais juste vide, j'étais juste spectateur de tout ce qui se passe autour de moi. Donc j'arrive, les premiers jours, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne vais pas voir les gens. Et au bout du troisième jour, il y a des infirmières qui viennent me chercher et qui me disent tu vas manger parce que sinon tu vas pas tenir et tout. Donc j'accepte et je rencontre des gens là-bas qui sont... Au début, ils avaient tous tenté de se suicider. Donc du coup, ils étaient tous là pour la même cause que moi. Il y avait des borderline, des schizophrènes, des dépressifs, des anxieux, mais à un niveau que j'avais jamais vu, des hypersensibles. Il y avait que des gens très fragiles autour de moi. Et j'étais le plus stable dans l'hôpital, je pense. Personne ne s'occupait de nous en soi. On était juste livrés à nous-mêmes dans un hôpital. On venait juste nous voir pour des rendez-vous avec des psys, des infirmiers. Ou sinon, c'était pour manger ou pour des activités deux fois par semaine. Mais après, la plupart du temps, on restait en groupe, on se parlait, on faisait des jeux de société. Et on s'ennuyait beaucoup. Et le seul moment où on pouvait sortir dehors, c'était à la pause clope. Il y en avait environ 5 dans la journée. Donc même les gens qui fumaient pas, ils y allaient juste pour respirer l'air extérieur parce qu'on était vraiment enfermés, quoi. Et après, durant toute la partie jusqu'à la salle d'isolement, j'ai essayé de me sociabiliser, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais enfin, la salle d'isolement, c'est quelque chose où quand on en ressort, on peut pas parler, on peut pas comprendre. En fait, on connaît plus rien, on oublie tout.
C'est comment, c'est une pièce
Alors la pièce, c'est assez horrible parce que quand on rentre la première porte, il y a un petit espace du coup. Et après, il y a une seconde porte et la salle, elle est très restreinte. Je crois qu'elle fait à peu près 3 mètres carrés. Pour dormir, on a une sorte de tapis gym, mais il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. Et il y avait des toilettes sèches et c'est tout. C'est juste ça, une salle d'isolement. Et on y reste... plus de 24 heures ou de 48 heures, ça dépend des personnes.
Quand ils t'y ont emmené, qu'est-ce que tu avais fait ?
Alors, pour eux, j'avais fait 3 tentatives d'homicide. En fait, il y avait une embrouille générale à un moment avec un garçon de l'hôpital. Et ce garçon-là avait eu des propos transphobes envers moi, homophobes envers une autre fille. Et des propos sexistes, racistes, et ça nous avait saoulés. Donc au bout de 2 semaines, on s'est un peu disputé, tout le groupe contre lui. Et j'étais vraiment perdue à ce moment-là, et on m'a dit, bats-toi avec lui. Du coup, je me suis battue, et à un moment, je l'ai étranglé. Sauf que ça lui a laissé une petite marque. Je l'ai étranglé pas plus de 5 secondes. Au bout de 5 secondes, je me suis retirée, mes amis m'ont dit, on arrête là. Et le lendemain, il devait partir. Du coup, ses parents... ils disent « Oui, c'est quoi la marque sur le cou des vannes ?» Et les infirmiers ne savent pas quoi répondre parce qu'ils ne nous ont pas surveillés. Enfin, ils ne nous surveillent jamais, donc ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Et après, j'ai un rendez-vous avec les psys. Et je leur dis « Oui, c'est moi, on s'est disputé avec Evan, j'ai étranglé Evan. » Et là, ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte, t'aurais pu le tuer, c'est inadmissible. J'ai dit, oui, je sais, c'est... Ça se fait pas, j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai jamais voulu tuer. Donc eux, ils me laissent, ils repartent, ils disent, on va faire un signalement. Et aussi, j'avais écrit un texte assez violent, en fait, parce que je me suis dit, autant être là-bas, autant tout raconter et avoir un diagnostic. S'il y a quelque chose qui va pas, au moins je le saurai. Donc ils ont signalé et la lettre qui était censée m'aider à aller mieux, entre guillemets, parce qu'ils auraient pu me donner un diagnostic, me dire ce qui allait pas. Et au final, ça m'a encore plus enfoncé, plus du coup, bah, l'étranglement. Donc ça, c'était la première partie. Après, il y avait eu un autre soir où on était en groupe, etc. Là, c'est là où ça porte plus à confusion, effectivement. On était plusieurs autour d'une table et à un moment, quelqu'un dit... Enfin, c'est un garçon qui disait « Oui, Giovanni, étrange-moi, j'ai envie de savoir ce que c'est la mort. » Moi, je lui dis « Je le ferai pas plus de 10 secondes parce que j'ai pas envie que tu meurs. » Il me dit « Ok, on fait ça comme ça. » Donc, je commence à étrangler et tout. Et c'est tout. Je lui dis « On arrête là parce que moi, j'ai pas envie que tu meurs. Enfin, vraiment, je veux pas. » Et après, il y a une autre fille qui dit « Ouais, vas-y, tu peux faire ça avec moi. » Je dis « Ok, mais vraiment, pas plus de 5 secondes parce que sinon, j'ai vraiment pas envie, c'est trop risqué. » Et ça se passe comme ça. Et le lendemain, je sais pas, il y a quelqu'un des deux qui a dit qui s'est passé la veille. Et moi, on me convoque. Et on me dit « Oui, t'es devenu trop violent, ça fait 3 tentatives d'homicide, on a prévenu la police. » Et il m'envoie en salle d'isolement. C'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas.
Et comment t'es ressortie ?
J'en suis ressortie, j'ai du mal à m'adapter déjà. C'est-à-dire qu'au moindre bruit, vu que je ressortais toujours de la salle d'isolement quand je suis sortie de l'hôpital, le moindre bruit, ça me surprenait, je pouvais pas. Et c'était assez bizarre parce que je ressentais pas les émotions, mais je pleurais et c'était juste horrible en fait. J'ai eu du mal. Quand les gens me parlaient, même au lycée, j'ai eu du mal. Dans ma famille, au début, je me forçais à pas pleurer parce que c'était trop compliqué. En fait, je restais juste enfermée et c'est comme ça que justement je suis partie vivre seule.
Chez ton frère ?
Oui. Parce que là-bas, j'étais sûre de ne pas interagir avec d'autres personnes. Sauf dans les transports en commun, et justement les transports en commun c'était assez perturbant parce que j'étais obligée d'avoir de la musique, si j'avais pas de musique je tenais pas vraiment. Et d'ailleurs la musique ça a été quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée parce qu'à l'hôpital j'avais pas le droit d'en écouter sauf le soir pendant 15 minutes. J'étais vraiment perdue parce qu'avant je faisais environ une playlist par jour, j'écrivais des poèmes tous les jours grâce à la musique, je vivais bien grâce à la musique. Et quand je suis ressortie, je savais même plus quoi écouter, alors que c'était quelque chose que j'écoutais vraiment tout le temps et ça me permettait de tenir. Et là, je ressors, je sais plus quoi écouter, je sais plus quoi faire, j'écris plus, je fais plus rien. Je suis juste vide et j'arrive pas à interagir avec d'autres personnes. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à me comprendre moi-même. C'est assez violent.
J'entends les larmes dans la voix de Giovanni, sa détresse. Ne pas réussir à être au monde, se sentir complètement vide, je connais ça. Ils ne m'ont jamais enfermée en cellule d'isolement. J'étais docile, un bon petit soldat. Je mangeais mes plateaux repas, participais aux activités, ne faisais aucun bruit. Je n'étais un danger pour personne, sauf pour moi-même. En surface, lisse, calme. Mais j'étais à vif, tout le temps. L'opposé de Giovanni. C'était comme ne pas avoir de peau, aucune protection. Je repense à cette période de ma vie. Pour rien au monde, je ne souhaiterais la revivre. J'ai envie de dire à Giovanni que ce sera mieux après. Mais je ne dis rien. Parce que je ne sais pas. Parce que je veux pas mentir. Parce que je ne suis pas lui.
T'as jamais eu de vrai diagnostic posé sur toi ?
J'en ai jamais eu. Jamais. Un jour, on m'a dit que j'étais hypersensible, j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont juste jugé le masque social que je porte. Parce que, évidemment, quelqu'un de peu émotif, ça attire pas beaucoup de gens. Enfin, moi, on m'a éduquée dans le sens où il faut avoir beaucoup d'émotions, il faut être sensible, il ne faut pas avoir peur de montrer ses émotions. En fait, tous les discours de tolérance et tout sur les émotions, les réactions, ou même ce qu'on m'apprend en normes sociales, c'est à chaque fois beaucoup d'émotions. C'est enfin, comme dans les pièces de théâtre, quoi. Donc, j'ai l'habitude de porter un masque et à cause de ça, on m'a diagnostiqué hypersensible alors que ce n'est pas mon reflet. Et moi, devant les psys, je réagissais toujours excessivement parce que je pensais que c'était ça la réalité, c'était comme ça qu'il fallait que je réagisse. Et j'ai dit oui, c'est moi, je suis hyper émotive, c'est comme ça, j'ai beaucoup de réactions, et en fait, pas du tout. Au fond, c'est pas ça.
Tu dis qu'il y a un truc qui cloche chez toi ?
Bah, moi, je pense que je suis comme tout le monde et je devrais pas avoir de troubles. Enfin, d'après moi, et c'est surtout les psys qui me disent qu'il y a un truc qui va pas, c'est ma mère qui me dit qu'il y a un truc qui va pas et ils en font beaucoup. Et il y a mes amis qui me disent mais non, t'es normal, t'es comme nous, t'as juste moins d'émotions, c'est tout, c'est comme ça. Donc je sais vraiment pas.
T'as de la colère ?
La colère, oui, des fois, je peux avoir des excès de colère, mais je vais pas le ressentir en soi. C'est-à-dire que je peux être violent, je peux dire que oui, je suis en colère, mais en soi, est-ce que je le ressens vraiment pas trop. Ça justifie des réactions que je peux avoir.
Il m'arrive de pleurer ou d'être triste, sans penser à quelque chose de précis. C'est après que je connecte, que je relie mes émotions à l'événement. Giovanni, c'est ça, puissance 1000, au quotidien. À l'extérieur de lui-même, le masque tout le temps. Je me demande ce qu'il ressent là tout de suite. Sûrement rien. Est-ce qu'il fait semblant d'être avec moi ? Est-ce que tout le monde fait semblant ? J'ai du mal à arrêter ma pensée sur une idée claire. Un flux ininterrompu. J'aimerais savoir à quoi Giovanni pense. Peut-être que lui aussi se demande à quoi il pense. Peut-être que nos pensées se croisent dans l'air. Foutu cerveau. J'inspire, j'expire. Je reviens à Giovanni, à son histoire.
Tu parlais d'une lettre tout à l'heure à l'hôpital.
Alors, dans la lettre, c'est là où justement il y a. C'est un peu le paradoxe de moi. C'est une autre personne qui a commencé à me faire ressentir beaucoup d'émotions et ça m'a beaucoup perturbée, on va dire. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais ressenti d'émotions, pourquoi j'en ressentirais maintenant ? Et dans la lettre, je disais que j'avais envie de tuer cette personne-là parce que je supportais pas ce qu'elle changeait chez moi et. Du coup, j'avais décrit comment j'aurais pu la tuer, enfin les images que j'avais dans ma tête, parce que c'est pas, en soi, c'est pas ce que je veux vraiment, mais enfin c'est pas ce que mon conscient veut, mais c'est ce que mon inconscient veut. Je parlais du rêve, du fait de tuer cette personne, mais en détail en fait. Je disais aussi les réactions que j'aurais pu avoir à ce moment-là si ça devait arriver, et je pensais que ça allait m'aider de comprendre un peu plus moi-même quand j'étais perdue à ce moment-là, en écrivant ça, en ressentant tout ça. En en parlant avec les psys, qu'ils allaient me donner des réponses. Et au lieu de me donner des réponses et de m'aider, de me dire oui, c'est à cause de ça et ça, bah, ils m'ont dit non, on va faire un signalement à la police et c'est tout.
Et cette personne, c'était des sentiments quel genre, enfin, amour.
Bah, je sais pas si c'est de l'ordre de l'obsession ou de l'amour et je suis un peu perdue parce que les émotions, c'est. Moi, vu que je les ressens pas ou peu, C'est extrêmement compliqué de mettre un mot là-dessus parce que c'est des émotions nouvelles que je ne comprends pas, que je ne connais pas, je ne sais même pas ce qu'il affiche là. Je ne sais pas si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, si c'est une obsession, si c'est autre chose, si c'est de la colère, si c'est autre chose. Enfin, j'en sais rien du tout. Enfin, je ne sais pas.
C'est quelqu'un du lycée, du collège
Oui, c'est quelqu'un du lycée que je connais depuis la seconde, donc l'année dernière.
T'essayes de définir, d'être plus proche, ça te fait quoi ? Ça te fait chaud ? Ça te fait... Je sais pas, ça te fait quoi ?
Bah, je sais pas vraiment comment décrire une émotion. Parce que vu que je passe mon temps à réfléchir, en fait, je vais analyser, mais je suis là... on ressent une réaction chimique qui provoque une émotion, mais l'émotion, je sais, vraiment pas la qualifier.
T'as envie d'être avec cette personne ou...
T'as envie
de la toucher, t'as envie...
Je sais pas vraiment, honnêtement. C'est quelque chose de très abstrait pour moi encore pour l'instant. Et même si ça fait bientôt plus d'un an que je ressens ça, je sais toujours pas. C'est trop compliqué pour moi. Ça... En fait, ça dépasse ma partie qui analyse, qui est consciente, etc. Et j'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à savoir. Je sais pas.
T'as jamais été amoureux, du coup. Enfin, avant ça.
Avant ça, non, j'ai jamais été. C'est très compliqué pour moi de ressentir des émotions. Donc être amoureux, c'est quelque chose que je pensais impossible. Je me disais, mais j'ai fini ma vie seule et moi, ça me va très bien. Et là, je me retrouve avec ça et je me dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi? C'est une découverte.
Et agréable?
Des fois agréable, des fois pas agréable. Ça dépend.
Et la personne est au courant?
La personne le sait. Et la personne, non. Mais de toute façon, même moi, je savais, je pouvais pas me mettre dans une relation parce que me connaissant, en fait, c'est une nouvelle partie que j'écouvre de moi et j'ai pas envie de risquer d'être avec quelqu'un et enfin de me mettre en couple avec quelqu'un, mais pour enfin entre guillemets pour la première fois parce que j'ai eu beaucoup de relations mais je ressentais pas les choses donc enfin je laissais ça passer comme ça et vu que là la personne enfin j'y tiens quand même, j'ai pas envie de la blesser peut-être, je sais pas, donc je suis là, je refuse la relation. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est une relation qui est impossible. Enfin, et même la personne me l'a dit en face, mais ça va pas être possible.
Tu lui as dit quoi, toi?
Je lui ai dit que je pensais que j'étais amoureux et j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer. Et au début, il s'est beaucoup foutu de ma gueule. C'était assez drôle. On en a pas mal rigolé et après, il m'a dit bon, c'est pas possible et c'est tout. Ça s'est passé comme ça et j'ai pas su vraiment lui dire et j'arrive toujours pas à lui dire. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire beaucoup de poèmes, c'est parce qu'en fait y a pas assez de mots, y a pas de mots pour décrire ça, y a rien qui peut décrire ce que je ressens. Et peut-être que c'est à cause de mon vécu, peut-être que au final c'est ça qui fait que ça s'appelle l'amour, j'en sais rien du tout.
De l'avoir, ça te rend heureux ?
Juste, oui, voir la personne de loin, ça me rend heureux, je pense. C'est un sentiment qui est positif. Donc j'ai déterminé que c'était de la joie. Et je pense que c'est assez cohérent.
Tomber amoureux. Je réfléchis à comment définir cet état à Giovanni. C'est chaud, puissant. Ses pulsations. Des couleurs vives. Ses obsessions. C'est tout le temps. Oui, c'est de la joie. Giovanni a raison, mais pas seulement. Il se dit que c'est ça l'amour. Je lui souhaite qu'un jour, il ne se dise pas, il ne pense pas. Que Giovanni soit juste là, dans son corps, connecté à lui-même et à l'être aimé. T'as pas mal d'amis ?
Les amis, j'ai du mal à considérer les gens comme mes amis. En soi, je pourrais avoir énormément d'amis, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc du coup, j'ai que, je pense, 3 amis vraiment proches dans la réalité. Sur les réseaux sociaux, ça, c'est un peu une autre version de l'amitié, du coup, je dirais beaucoup plus. Et j'ai vraiment un cercle restreint. Après, reste, c'est des connaissances et des camarades et tout.
T'as déjà été en couple avant
Oui, j'ai été beaucoup de fois en couple et beaucoup de fois ça a raté parce que ça se ressentait que j'aimais pas la personne en face. Même si je peux être très gentille et très charmant avec la personne, à un moment, je suis désolée, mais moi, je ressens peu de choses et. Enfin, en fait, c'est moi qui suis obligée de quitter les autres et j'ai pas envie de faire ça parce que. Apparemment, ça fait mal une rupture. Donc, j'ai pas envie de faire de mal si je peux ne pas en faire, c'est beaucoup mieux. Et c'est comme ça que mes relations ont commencé à passer de 7 mois à une semaine. C'est très peu.
Et c'est des relations que tu as eues en Giovanni ou...
Oui, toujours en Giovanni, les relations. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir ma première copine, qui s'appelait Maëlle. Et on est toujours super amis. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on se connaît. On est restés ensemble un peu plus d'un an. c'était super. J'ai eu vraiment la meilleure relation, même si elle était très toxique, franchement.
Pourquoi ?
Parce qu'on était tous les deux suicidaires, donc... Puis à chaque fois qu'on se parlait, c'était un peu grâce à notre, entre guillemets, tristesse, solitude, tout ça, tout ce qui est négatif, qu'on restait ensemble. Et en fait, ça nous a permis quand même, d'un côté, de rester en vie tous les deux. Donc pendant plus d'un an, c'était la plus belle relation que j'ai eue.
Ça, c'était quand ?
C'était quand j'étais en quatrième.
Donc tu avais déjà l'apparence d'un garçon ?
Oui, j'avais déjà l'apparence d'un garçon. Première relation. Franchement, la plus belle. Je la retiendrai toute ma vie, peut-être.
Et là, tu ressentais des émotions ?
Je ressentais pas vraiment d'émotions, mais je m'en inventais beaucoup. Et en fait, je copiais surtout sur les gens que je voyais sur Internet, qui étaient tous tristes à ce moment-là. Parce que bah, y avait eu confinement et tout, je sais pas, ça a dû rendre les gens dépressifs. Donc j'ai joué un peu un rôle d'un gamin dépressif. Et c'est... Bon, c'était fun en soi, hein. Même s'il y a eu beaucoup de moments tristes, beaucoup plus de moments tristes que de moments joyeux. Et en soi, je pense que je devais être heureux, mais je sais pas. C'est vraiment une de mes meilleures périodes de ma vie.
Mais tu joues un rôle.
Oui, je joue un rôle. C'est assez étrange, on va dire. Je suis vraiment un paradoxe ambulant.
C'est comme ça que tu te définirais ?
Je pense, ouais.
Un paradoxe ambulant.
C'est comme ça, parce que je porte un masque à chaque fois qui monte plein d'émotions, et au final, j'en ressens un peu, mais je peux pas me permettre d'être vraiment moi avec les autres, parce que pour moi, ce serait déjà... Enfin, je sais pas, peut-être être vulnérable.
Avec qui t'es vraiment toi-même, alors ?
Peut-être avec ma première ex-petite amie. Peut-être avec la personne que j'aime. La personne que j'aime, après, c'est différent, parce que bah là, je ressens vraiment des émotions et pour le coup, c'est difficile d'avoir un masque social. Et en fait, je me dis, je vais réagir comme ça, du coup, je planifie tout. Mais au dernier moment, ça change et je réagis plus du tout comme je veux et je commence à juste bugger et je sais pas. En fait, parce que je me reconnais pas et je suis là, mais du coup, ça c'est moi ou c'est pas moi? Je sais pas.
J'imagine les émotions de Giovanni éparpillées. Les sensations surgissent, elles le heurtent. Dans le noir, elles traversent, elles restent. Le corps a une mémoire. Un corps sans lumière, un corps en attente. Sensations et émotions ne se croisent pas, ne se touchent pas. Quelque chose les en empêche. Quelque chose, mais quoi ? Comment savoir ? Giovanni est dissocié. Il est en désordre. Il est en construction.
T'as jamais eu de rapport sexuel, tout ça, ou t'as déjà fait des choses, ou rien, ou t'as envie de faire des choses ou...
Bah, alors ça, c'est vraiment la question. C'est... Alors, oui, mais pas... En gros, moi, je donne, les gens reçoivent, et moi, j'ai rien en retour. C'est-à-dire que, bah, avec toutes mes copines, je leur faisais plaisir, mais moi, je reçois rien parce que j'ai pas mon corps, du coup c'est compliqué. Enfin, j'ai testé une fois et j'ai rien ressenti du tout. Et franchement, ça me plaît pas du tout et ça me met juste plus mal. Et c'est aussi un cas où je peux ressentir peut-être une émotion comme de la colère. Et à ce moment-là, je vais pas me sentir bien, juste me scarifier. Et après, je vais repartir normalement. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'attire avec ce corps-là. Mais je sais que plus tard, enfin. Quand je retrouverai mon corps, je pense que oui, j'y penserai. Enfin, je penserai plus à le faire et tout. Pour l'instant, je suis bloquée par ça parce que, je peux pas agir parce que pour moi, même je remarque dans mes réactions quand je suis assez proche, quand on commence à beaucoup s'embrasser et tout, en fait, je réagis comme si j'étais un garçon, mais enfin physiquement et t'as pas le bon corps quoi. Et je suis là, ouais, c'est vrai, j'ai pas le bon corps. Et c'est bien dommage parce que je ressens du coup que vraiment c'est je sais pas c'est peut-être difficile à concevoir pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément trans ou qui ressentent pas la transition comme moi, mais je vais sentir que je vais avoir une érection, mais je vais pas l'avoir physiquement, c'est-à-dire que c'est juste mentalement je sais que j'ai une érection, mais qu'avec mon corps et pas celui dans lequel je suis enfermée actuellement. C'est très bizarre. C'est... Vraiment, c'est une sensation qui est assez étrange.
Mais qui est agréable, du coup.
C'est frustrant. C'est frustrant parce que je peux pas agir. Je suis là... Je suis bloquée. Et je me dis... mince, c'est dommage.
Et ça, t'en parles ou pas?
Ça, j'en parle vraiment très peu. Parce que du coup, il y a peu de personnes qui sont au courant que je suis trans. Vu que bah, je suis un garçon, donc j'ai pas besoin de préciser que je suis trans. Et pour moi, trans, c'est un truc qui me correspond pas parce que je suis déjà un garçon. Je ne passe pas de fille à garçon, je suis déjà un garçon. Mmh. Et je l'ai toujours été. Ça a toujours été comme ça. Juste le corps qui s'apparente à celui d'une fille.
On en revient toujours à ce corps qui n'est pas le sien. Je crois que je comprends. D'une certaine façon, pendant longtemps, mon corps n'a pas été le mien. Il appartenait à d'autres. Comme Giovanni, j'étais loin. Alors, pour survivre, effacer, transformer, se persuader. Tout ira bien. Tout est normal. Se le répéter. Tout est normal. Alors, pour survivre, arrêter la pensée. Faire ce qu'on attend de nous. Oublier son corps. S'extraire, disparaître, devenir imperméable. Attendre que ça passe, attendre de devenir. En attendant, ne pas trop se faire de mal, ne pas trop se haïr, ne pas trop crier, tenir bon, pour survivre. Juste ça, survivre.
Bah comment là en ce moment?
Bah, je pense que si je ressentais des émotions comme tout le monde, on va dire, c'est je pense que je serais au plus bas. Mais vraiment que ça pourrait plus tenir et tout, que je serais vraiment. Bah, pour le coup, vraiment dépressif. Mais. Enfin, là, vu que je ressens peu d'émotions en soi, je pense que je le vis ni bien ni mal. En fait, je le vis pas.
Et t'aimerais que ça change? T'aimerais être différent, enfin ressentir plus de choses et...
En soi, je sais pas, parce que je me dis, je le vis très bien comme ça, vu qu'au moins je suis pas triste comme les autres. Et en même temps, je me dis, mais ça peut être drôle d'être triste comme les autres, justement, de ressentir des émotions et tout, de ressentir de l'empathie, enfin, de comprendre ce que les autres ressentent, savoir ce que c'est de... d'être extrêmement joyeux, extrêmement triste, extrêmement en colère, extrêmement, je sais pas, peu importe l'émotion. Mais je me dis, je perds du contrôle, je perds ce que je suis, je perds, je sais pas. Pour moi, ce serait ne plus être comme moi, en fait.
Ouais. Et ça te manque pas de pas avoir de psy, du coup
hein? Franchement, j'en ai rien à faire d'avoir un psy ou pas. C'est, honnêtement, ça change rien. J'en vois depuis toujours par habitude et... C'est vrai que ça fait un peu un vide de plus aller chez le psy le mercredi après-midi. Mais en ce moment, je suis en train d'écrire beaucoup sur la physique quantique et la physique newtonienne. En fait, c'est un peu les deux mélangés, donc sur le temps et l'espace. Sur si le temps existe ou pas, si l'espace existe ou pas, si l'espace-temps existe ou pas aussi, parce que l'espace-temps, l'espace et le temps sont des choses différentes. Il faut les séparer, c'est trois... Trois mots qui sont assez proches, mais en même temps très éloignés. Et à côté, bah, j'écris pour comprendre.
Tu sais ce que tu veux faire plus tard?
J'aimerais faire astrophysicien, mais je pense ne pas en avoir le niveau. Et après, j'hésite à revenir sur mes projets de base, donc être forgeron et à côté professeur. Après, peut-être écrivain. Beaucoup de projets.
Et tu vas continuer ta transition?
Ça, c'est sûr à 100%. Franchement, j'ai jamais été aussi sûre de ça. J'ai juste envie que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Donc, j'attendrai mes 18 ans et pour rassurer ma mère, j'attendrai mes 20 ans parce qu'elle me dit réfléchis encore. Et de toute façon, il faut que je voie des psys avant. Donc, la transition, c'est sûr.
Giovanni est doublement en transition. Entre l'enfance et l'âge adulte, entre deux corps. Peut-être que son absence d'émotion et sa manière de se protéger face au monde, à son adolescence, à sa famille, face à son reflet. Je souhaite qu'un jour, son intellect et ses émotions se rejoignent, fusionnent, le corps et la tête, ne faire qu'un. Ne plus être la victime de son sexe biologique. Ne plus être victime tout court. Giovanni est une bombe à retardement. Tic-tac, tic-tac. Un jour, il explosera, il se trouvera, et ce sera grand. Dans le prochain épisode, Lola souffre d'anorexie et se livre elle aussi sur son rapport au corps douloureux. Adolescence, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck.
Une création.
Blast.